France Culture, il est midi et demi. On retourne à Paris où nous attend Camille Magnard. Pour son journal. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Elles font parler depuis des mois, elles sont à présent sur le bureau d'Emmanuel Macron. Les ordonnances pénicaud de réforme du Code du Travail vont être signées par le chef de l'État dans quelques minutes et les mobilisations perlées d'hier et de demain n'y changeront rien. Pour les marges de négociation, il va falloir batailler sur les décrets. Explication dans ce journal de Sophie Delpont et sujet développé également avec notre invitée, la députée La République En Marche Brigitte Bourguignon qui préside la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale. C'est le dernier jour d'audience au procès de ces 9 personnes accusés d'avoir agressé des policiers et incendié leur voiture en mai 2016 en marge d'une manifestation contre la loi travail. À l'heure des réquisitoires, nous rejoindrons Antoine Maret au palais de justice de Paris. Un face-à-face tendu ce matin sur les Champs-Élysées, c'est celui qui a opposé Nicolas Hulot et des agriculteurs de la FNSEA venus défendre l'utilisation du pesticide très contesté, le glyphosate. Et puis l'actualité internationale, l'Iran qui annonce une montée en puissance militaire avec de nouveaux missiles à longue portée. Réaction à la défiance exprimée par Donald Trump à l'Assemblée Générale de l'ONU en début de semaine. Analyse à suivre de Nadine Epstein. Nous essaierons aussi de savoir ce que va bien pouvoir dire Theresa May dans son discours de Florence cet après-midi. Il s'agit, nous dit-on, de rassurer les chefs d'État européens, de débloquer les négociations sur le Brexit en proposant des compromis. Toutes les explications depuis Londres dans ce journal avec Antoine Gignot. L'image de cette mi-journée, ce sera donc celle-ci. Emmanuel Macron à son bureau signant les textes de ces 5 ordonnances qui vont réformer en profondeur notre code du travail au lendemain d'une mobilisation syndicale plutôt décevante selon et pour ses organisateurs et à la veille d'une contestation politique dans la rue, là encore avec la France Insoumise. Bonjour Sophie Delpont.
Bonjour.
On ne va pas gloser sur le nombre de participants des manifestations CGT d'hier. On va plutôt se projeter dans ce qui va se passer demain sur ce nouveau front de protestation politique contre les ordonnances et la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui veut asseoir sa légitimité.
Oui, la France Insoumise espère que le peuple déferle en masse, selon les mots de Jean-Luc Mélenchon. Seule une démonstration de force peut effectivement permettre à son mouvement de prouver sa capacité à mobiliser les citoyens face à la politique d'Emmanuel Macron, au-delà des divisions de la gauche. C'est un appel aux gens, selon la formule consacrée. Tout le monde est bienvenu, répète ses porte-paroles. Après des semaines de critiques quant à la volonté hégémonique de la France Insoumise, le mouvement souligne la présence d'une délégation du Parti communiste, du NPA aussi sur un point fixe, en plus de Benoît Hamon et du Parti Nouvelle Donne notamment. Pour peser face au gouvernement, la France Insoumise compte réactiver la percée de Jean-Luc Mélenchon lors de la présidentielle. L'ancien candidat avait obtenu le suffrage de 30% des 18-24 ans et la mobilisation de la jeunesse peut être décisive dans le bras de fer avec le gouvernement. Car selon les éléments de langage répétés hier notamment par le député France Insoumise Éric Coquerel, l'objectif du mouvement c'est bien de bloquer la politique du président de la République en contribuant à amplifier la contestation dans les prochains mois.
Alors tout ça pour l'instant n'influence en rien sur la marche de l'exécutif. Emmanuel Macron, on le disait, qui va signer dans les toutes prochaines minutes ses 5 ordonnances. Désormais, c'est sur les décrets d'application que les syndicats vont pouvoir se battre.
Oui, une dizaine de points restent à préciser. Le gouvernement a déjà prévenu, il n'y aura pas de gros retour en arrière sur le fond, mais seulement quelques ajustements. Et c'est là notamment que la CFDT, par exemple, tentera de faire un peu bouger les lignes, en particulier sur le regroupement des instances représentatives. Le comité social et économique naît de la fusion des comités d'entreprise, des délégués du personnel et du comité d'hygiène et de sécurité. Combien de représentants des salariés y siégeront? Combien d'heures de délégation leur seront données et quels seront les moyens accordés? Plusieurs questions cruciales pour le dialogue social qui restent encore à trancher selon les syndicats. Autre point très sensible, la hausse des indemnités légales de licenciement, annoncée à l'origine de 25%. Elle ne concernerait finalement que les 10 premières années d'ancienneté et non l'ensemble de la carrière d'un salarié, selon les fuites la semaine dernière. La ministre du Travail a parlé d'un malentendu, il devra donc être éclairci. Quoi qu'il en soit, le calendrier sera tenu, promet le gouvernement. Les ordonnances entreront en vigueur dès la semaine prochaine, après leur publication au journal officiel, avant d'être ratifiées par le Parlement dans les 3 prochains mois.
Sophie Delpont, je vous propose de rester avec nous. Nous accueillons à présent l'invité de ce journal en duplex des studios de France Bleu Nord à Lille. Bonjour Brigitte Bourguignon.
Bonjour.
Et bienvenue sur France Culture. Vous êtes députée La République Merci. En Marche, présidente de la commission des affaires sociales à l'Assemblée. Aux premières lignes, donc, pour défendre cette politique sociale, ces lois de la majorité. La faiblesse du mouvement syndical d'hier, ça vous conforte dans le sens de cette réforme ?
Moi, je suis toujours respectueuse du mouvement social, évidemment. Ça fait partie de la démocratie. Mais pour autant, je suis aussi très respectueuse de la concertation. Et il y a eu une grande concertation qui s'est effectuée dans le calme, la sérénité. Et c'était assez innovant comme processus co-constructeur, on va dire, d'une loi.
À l'issue duquel des syndicats comme la CFDT et FO se sont dit déçus de ce qu'il y avait au final dans le texte.
Non, ils ont surtout dit qu'ils avaient obtenu des avancées. Ça, c'est ce que nous n'entendons jamais. Mmh. Et d'ailleurs, vous voyez bien, il y a encore des possibilités d'aller en avant. Et c'est ce qu'ils font de manière constructive. Ils ont dit eux-mêmes qu'il n'y avait pas de casse du droit du travail et qu'on était bien dans un dialogue social renforcé au plus près des territoires, un dialogue renforcé dans les entreprises, là où justement on ne parlait pas suffisamment de dialogue social dans les TPE, les PME. On le fait aller jusque-là, ce droit social. Et donc moi je trouve au contraire qu'on était arrivé à quelque chose d'équilibré, d'ajusté. Et qu'il y a deux types finalement d'opposition à ces ordonnances, vous le voyez bien.
Aujourd'hui, on va parler justement du deuxième type d'opposition, une question de Sophie Delpont du service politique.
Oui, bonjour Brigitte Bourguignon. Après la manifestation à l'appel, donc la manifestation d'hier, la manifestation demain à l'appel de la France Insoumise, les députés France Insoumise dont vous avez pu apprécier la combativité dans l'hémicycle, la mobilisation des routiers à partir de lundi, celle des retraités jeudi, la mobilisation unitaire des fonctionnaires le 10 octobre, craignez-vous que ce double front de contestation politique et sociale puisse bloquer la politique d'Emmanuel Macron ?
Alors, il faudrait peut-être dissocier aussi tous les mouvements parce que tous ne sont pas liés aux ordonnances du travail. Hein. Le mouvement des fonctionnaires n'est pas du tout celui-là. Le moment des retraités, c'est autre chose. C'est autour de la CSG. Donc voilà, il ne faut pas mélanger et faire un amalgame de tous ces mouvements sociaux qui s'expriment. Pour autant, les ordonnances, maintenant, elles sont adoptées. Il y aura une loi de ratification bientôt à l'Assemblée, mais elles sont adoptées. Moi, je préférerais qu'on se projette avec les partenaires sociaux vers la suite. Et il y a une suite, bien sûr, ça n'était qu'une première étape. Et il faut maintenant lancer les discussions sur l'assurance chômage, sur le grand chantier de la formation professionnelle qu'on va ouvrir, qui est vraiment le grand plan d'investissement pour les compétences, pour la formation professionnelle.
Et ben ça tombe bien, Brigitte Bourguignon, c'est justement sur tous ces thèmes-là et toutes ces réformes et ces textes qui vont arriver ensuite qu'on va vous interroger donc dans la séquence interview de ce journal dans quelques minutes. Maintenant, vous restez avec nous. Un mouvement social qui s'apaise, lui au moins temporairement, c'est celui des CRS. Ils suspendent leur fronde après avoir fait promettre au ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, que leur prime de déplacement ne sera pas soumise à l'impôt dès l'an prochain, comme le voulait le gouvernement. Hier, plusieurs milliers d'agents des CRS s'étaient mis en arrêt maladie en signe de protestation. C'est la dernière journée d'audience au procès de cette agression retentissante contre une voiture de police et ses occupants. C'était en mai 2016, dans Paris, en marge d'une manifestation contre la loi travail, des individus masqués qui jetaient un cocktail Molotov dans une voiture de police, donc qui frappaient à coups de barre un des agents qui se trouvait dans le véhicule. Moment marquant de la mobilisation de l'an passé. Et à présent, donc, procès de la violence militante et de la violence politique aussi. Au palais de justice de Paris, ce matin, on en était à l'énoncé du réquisitoire, Antoine Marette.
Le procureur s'est indigné. On a tout entendu dans ce dossier. On a parlé de dossier vide. Il y a eu un véritable matraquage médiatique autour de cette idée. Il met en cause notamment l'interview d'Antonin Bernanos dans Mediapart 10 jours avant le début de l'audience. Pour le procureur, cette idée de complot est une offense à l'intelligence humaine. Elle porte atteinte à beaucoup de valeurs de notre société, notamment la séparation des pouvoirs. Ce procès est un procès d'incendiaires et de personnes qui ont commis des actes de violence. Il n'y a pas de complot. Il n'y a que des faits, a affirmé le procureur. Au début de ce quatrième jour d'audience, ce sont les avocats de la partie civile qui ont plaidé. L'avocate du policier Kevin Philippi s'est plainte de l'absence de vérité dans ce procès. Les prévenus n'ont toujours pas conscience de ce qu'ils ont fait. Ils n'ont aucune empathie, mais en revanche, ils se plaignent beaucoup, a-t-elle déploré. L'avocate d'Alliance n'a pas hésité à évoquer des actes terroristes et à faire un parallèle entre cette manifestation contre la police qui a dégénéré et l'attentat de Magnanville pendant lequel un islamiste avait assassiné un couple de policiers. Elle dénonce une culture politique indigente qui porte des fruits nauséabonds. Ce n'est pas un procès politique qui se déroule, c'est un procès de casseurs dont la pensée politique est proche de zéro, a-t-elle conclu.
Le verdict devrait être rendu la semaine prochaine, le 29 septembre. Justice toujours et la Cour de cassation qui confirme la culpabilité des laboratoires Servier dans le volet civil du scandale du Mediator. Décision rendue mercredi qui conforte donc la plaignante, une des nombreuses nombreuses victimes de ce médicament et des risques de valvulopathie qu'il faisait courir à ceux qu'il prenait. Servier connaissait le danger et n'en a pas tenu compte, confirme donc la plus haute juridiction civile. Dans le volet pénal de l'affaire, les laboratoires et l'agence du médicament ont été renvoyés en correctionnel au début du mois pour tromperie aggravée, escroquerie, blessure et homicide involontaire, tout comme trafic d'influence, mais la date du procès en correctionnel n'est pas encore connue. Les Champs-Élysées coupés à la circulation ce matin pendant une petite heure, conséquence d'une manifestation de la FDSEA d'Île-de-France. De la paille répandue sur la plus belle avenue du monde et quelques 300 agriculteurs vêtus de noir couchés dessus. Leur manière à eux de dénoncer l'interdiction voulue par Nicolas Hulot du pesticide le glyphosate, le fameux Roundup de Monsanto, aussi controversé qu'utilisé massivement sur les exploitations conventionnelles. La manifestation n'était pas prévue, non plus. La venue à la rencontre des manifestants du ministre de la Transition écologique en personne, Guillaume Gaven.
Oui, celui-là même dont les agriculteurs veulent la démission, en route pour le Conseil des ministres qui se tenait tout près. Nicolas Hulot s'est arrêté quelques minutes pour justifier sa position, redire que le glyphosate était trop dangereux pour la santé, pas question d'en reprendre pour 10 ans. Évidemment, il a été quelque peu chahuté.
C'est sympa d'être venu, c'est très gentil d'être venu. On aurait voulu avoir cette discussion avant que vous preniez, avant que vous fassiez ces annonces. Mais le glyphosate, trouvez-nous l'étude qui nous prouve qu'il y a des morts. Et s'il y avait plus de morts, vous voulez protéger les agriculteurs. Mais s'il y avait tant que ça de morts, on serait déjà tous crevés, nous. Parce qu'on est 10 000 fois plus exposés que le citoyen lambda.
N'attendons pas la démonstration du pire, c'est-à-dire d'avoir une liste exhaustive du nombre de victimes pour réagir. Dans beaucoup de domaines en France, si on avait anticipé, croyez-moi, il n'y aurait pas un certain nombre de tragédies. Les arguments que j'entends de votre part, je les avais entendus sur l'amiante à l'époque.
Et pendant que Nicolas Hulot était dans la rue, une délégation d'agriculteurs a été reçue à l'Élysée par la conseillère agriculture Audrey Bourrelot. Pas d'avancée notable, chacun campe sur ses positions pour l'instant, mais des nouveaux rendez-vous ont été pris dans un avenir très proche.
Guillaume Gaven, reportage donc aux Champs-Élysées ce matin. Il est midi passé de 42 minutes sur France Culture. Nous ouvrons à présent la page internationale de ce journal avec la réponse de l'État voyou aux gendarmes du monde. Le président iranien Hassan Rouhani avait forcément en tête ce matin les propos de Donald Trump à l'ONU en début de semaine, quand il a annoncé donc depuis Téhéran, en plein défilé militaire ce matin, qu'il allait renforcer l'arsenal militaire de son pays. Plus précisément, l'Iran va se doter d'un nouveau type de missile balistique à tête multiple d'une portée de 2000 km. Nous allons renforcer notre capacité militaire et nous n'allons demander la permission à personne, déclare Hassan Rouhani. Il précise au passage que cette force de frappe, elle reste uniquement défensive. Mais dans son discours, Nadine Epstein, Rouhani réaffirme aussi son implication contre la volonté des Américains dans les conflits régionaux Yémen, Palestine et Syrie.
Et le président iranien semble répondre aux propos de son homologue français. À l'ONU, Emmanuel Macron avait estimé que l'accord nucléaire avec Téhéran devait être maintenu, mais qu'il était insuffisant et qu'il fallait obliger l'Iran à réduire son programme balistique et limiter ses activités dans la région. Que vous le vouliez ou pas, déclare Hassan Rouhani, nous allons renforcer nos capacités militaires, développer nos missiles, nos forces aériennes et terrestres et maritimes, et le président iranien de prévenir aussi que vous le vouliez ou pas, nous allons défendre les peuples opprimés du Yémen, de la Palestine et de la Syrie, fermez les guillemets. Téhéran rappelle ainsi que si les Européens et les Américains voulaient lier le dossier nucléaire à toute autre question concernant la politique et l'influence de l'Iran au Moyen-Orient, l'Iran ne manquera pas de montrer son rôle et sa force dans les conflits en cours dans la région. En premier lieu dans les guerres actuelles qui s'éternisent. Au Yémen, l'Iran est l'allié des Houthis et en Syrie, l'allié du boucher de Damas, Bachar al-Assad. Cette alliance avait refroidi les relations entre l'Iran et les Palestiniens de Hamas, mais l'Iran et Hamas affichant le même ennemi commun, Israël, une nouvelle entente a été scellée. Téhéran verse chaque mois 15 millions de dollars à Hamas et est redevenu le principal fournisseur d'armes, de finances et d'entraînement de la branche armée de Hamas à Gaza.
Nadine Epstein, merci à vous. Les répliques de l'Assemblée générale de l'ONU, des déclarations fracassantes, là encore, de Donald Trump, avec le dictateur nord-coréen Kim Jong-un, qui décrivait dans des déclarations ce matin le président américain comme gâteux, mentalement dérangé. Il lui promet de payer cher. Ces déclarations évoquant la possibilité d'une destruction totale de la Corée du Nord, la plus féroce des déclarations de guerre de l'histoire, selon Kim Jong-un. Une nouvelle escalade verbale, on le voit, et un nouvel appel au calme de la Russie et de la Chine. Pékin qui réclame une une fois de plus l'arrêt des provocations mutuelles entre Pyongyang et Washington et propose un double moratoire, l'arrêt des essais de missiles coréens contre l'arrêt des manœuvres militaires américaines en mer du Japon. Theresa May, pendant ce temps, est à Florence, en tout cas elle y sera cet après-midi en Italie, la première ministre britannique qui va tenir un long discours censé permettre de débloquer les négociations sur le Brexit. Pour cela, elle va formuler des propositions, notamment une période de transition qui permettrait à la Grande-Bretagne de garder un accès au marché unique après mars 2019. Un mot devrait dominer ce discours de Theresa May adressé aux chefs d'État européens, le mot de clarté pour les entreprises et les citoyens dans un processus du Brexit, il faut bien le dire pour le moment, franchement ténébreux, Antoine Gignot.
Pour les tabloïds, si la première ministre va à Florence, c'est pour s'adresser directement aux chefs d'État des pays de l'Union pour court-circuiter Bruxelles et ce Michel Barnier jugé trop borné par le Daily Express. Le négociateur chargé du Brexit, lui, se contente de répondre qu'il attend des engagements clairs et qu'il écoutera le discours avec attention. Car de l'attention, il va en falloir. Le texte tient sur plus d'une dizaine de pages. Il a été lu et relu par l'ensemble des ministres hier pendant plus de 2h30 pour éviter les couacs, notamment sur la question de l'ardoise que le Royaume-Uni va devoir payer pour sortir de l'Union européenne. Ce sera, selon le gouvernement britannique, une offre ouverte et généreuse avec un nouveau partenariat économique, une nouvelle coopération en matière de sécurité. Mais la Première ministre va surtout plaider pour une période de transition. Concrètement, le Royaume-Uni pourrait continuer à payer jusqu'en 2020 l'équivalent de sa participation au budget européen, soit un peu plus de 20 milliards d'euros, et pourrait vouloir, en échange, conserver un accès au marché unique.
Antoine Gignot, à Londres, où l'on apprenait ce matin que la plateforme de réservation de véhicules avec chauffeur, Uber n'a plus le droit de proposer ses services. Sa licence expire le 30 septembre et elle ne sera pas renouvelée. Uber n'est pas apte à détenir une licence d'exploitation de chauffeur privé. Voilà comment justifie cette décision l'autorité de transport de la capitale britannique. Uber annonce dans la foulée qu'elle va saisir la justice contre cette révocation de licence. Nous retrouvons donc pour quelques minutes encore l'invitée de ce journal, la députée de La République En Marche, Brigitte Bourguignon. Je le rappelle, vous êtes présidente de la Commission des Affaires Sociales à l'Assemblée Nationale et vous êtes en direct, en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu Nord. Alors Brigitte Bourguignon, il y a un autre dossier chaud social pour la majorité en cette rentrée, c'est la diminution des contrats aidés. 200 000 seulement seront financés par l'État l'an prochain, c'est Édouard Philippe qui l'a précisé hier, contre 320 000 cette année. Et surtout, on apprend que le taux de prise en charge par l'État va être ramenée à 50% en moyenne. Ce sont les collectivités qui vont devoir compenser ce désengagement si elles en ont les moyens.
Je voudrais quand même préciser que les contrats aidés étaient déjà diminués. Pour la fin de l'année notamment, ça a été renforcé pour terminer 2017. Ensuite, moi je pense que l'essentiel, c'est la réflexion qu'on mène autour de ces contrats aidés et de se dire que c'est la personne qu'on doit remettre au sein du dispositif et non pas l'aide aux collectivités apportées. Moi je prône depuis très longtemps une insertion sociale et professionnelle qui est graduelle, hein, évidemment. Il y a des gens qui sont beaucoup plus éloignés de l'emploi que d'autres et la solution du contrat aidé dans une collectivité n'est pas forcément la bonne réponse à lui apporter. Moi je reçois, vous savez, dans mes permanences des gens qui sont arrivés à 14 années de contrat aidé. Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'embauche pour ces personnes ?
Alors vous, votre combat, ce sont les contrats d'insertion. Expliquez-nous.
Voilà. Mais vous savez, on a ce type de contrat au sein de structures d'insertion qui sont des associations, des ACI, qui sont suivies. On nous demande à nous... membres d'associations, de faire un suivi social, de faire une formation professionnelle, et puis aussi d'avoir des sorties positives à la fin. Sinon, on n'est pas financé.
Est-ce que l'État intervient dans le financement de ces contrats-là ?
Bien sûr. Et il continuera d'intervenir. Donc moi, je me félicite des mesures qui ont été annoncées hier, parce que le Premier ministre a reçu beaucoup de structures de ce type, d'insertion sociale, qui luttent pour l'insertion. Et il l'a convaincu, et il est tout à fait convaincu qu'il faut poursuivre ce dispositif. Donc ces contrats-là ne sont pas menacés. Ensuite, il y aura aussi des contrats plutôt liés à l'urgence sociale. Donc toutes les associations telles Banque Alimentaire, Resto du Cœur maintiendront également leurs contrats.
Mais avec une baisse donc, de la dotation de l'État à 50%.
Oui, mais pas pour les structures associatives. C'est ce que je suis en train de vous dire, celles qui seront encore couvertes. Ensuite, c'est pour les collectivités qu'il y a une baisse de prise en charge. Mais à contrario, je pense qu'on va aller vers des contrats aidés qui seront structurants et formateurs. Il va être imposé une formation, un suivi d'un vraiment réel du parcours d'insertion de la personne. Moi, c'est ça qui compte. Je pense que quand on lutte contre la pauvreté et quand on lutte pour le chômage, il faut aussi penser à la suite et ne pas... Vous savez, moi j'entendais des gens qui me disaient, bon voilà madame, j'ai terminé mon contrat, il faut que j'attende 8-9 mois pour avoir de nouveau un contrat, donc je vais attendre 8-9 mois. C'est quand même pas franchement porteur de débouchés significatifs pour ces personnes.
Justement Brigitte Bourguignon, je reviens sur des déclarations que vous avez faites dans les colonnes du journal L'Opinion il y a quelques jours, vous appeliez le gouvernement à envoyer des signaux clairs dans le domaine social. On sait que voilà, l'agenda pour les mois qui viennent va être chargé, notamment à la commission des affaires sociales que vous présidez. Il y a la réforme de la formation professionnelle, de l'indemnité chômage, la réforme des retraites. C'est quoi des signaux clairs selon vous ? Et il en manque de signaux clairs dans la politique sociale du gouvernement ?
Dans le même temps, il y a un plan de lutte contre la pauvreté qui va être annoncé aussi. Dans le même temps, il y a un plan d'insertion qui va être annoncé aussi. Donc moi, j'aimerais aussi qu'on puisse mettre en avant les choses qu'on fait en amont de ces décisions qui sont prises, parce que c'est très important. Elles participent d'un modèle qu'on essaie de faire, libérer des énergies, structurer par la suite des parcours. Moi, je me félicite aussi, par exemple, qu'on va essayer de baser ce plan de pauvreté autour de l'enfant, par exemple. On en parle très peu parce que vous savez, dans ce pays, quand on parle pauvreté, c'est comme si on parlait d'un gros mot et comme si parler de pauvreté, c'était forcément être de gauche et si on n'en parle pas, on est de droite. Enfin, franchement, ce clivage-là.
Est-ce qu'on sait ce qu'il va contenir ce plan pauvreté ?
C'est pas à moi de l'annoncer, mais en tout cas, il sera annoncé. J'ai eu des certitudes et je me félicite donc de ces avancées-là. On en a discuté, il faut que les choses soient dites. Vous savez, c'est une alchimie difficile à construire quelquefois lorsqu'on a des personnes de sensibilité plutôt de gauche avec des sensibilités de droite qui doivent travailler ensemble parce que ce qui compte, c'est l'intérêt général et les Français, c'est pas nos états d'âme à nous et c'est pas toujours facile de construire ça, mais ça demande à chacun, évidemment, de faire un pas vers l'autre. Parce que ce que nous ont demandé les Français aux ces élections, c'est d'en finir avec ce type de clivage pour répondre à leur situation.
Merci
et
beaucoup.
C'est ça qu'on essaie de trouver.
Merci Brigitte Bourguignon, donc à la commission des affaires sociales que vous présidez à l'Assemblée nationale, avec pas mal de choses dans les mois qui viennent pour développer justement toutes ces thématiques. Merci également à l'équipe de France Bleu Nord qui vous accueillait en direct en duplex dans ses studios. On termine avec la météo de cet après-midi. Les nuages qui vont s'étirer du sud de l'Aquitaine et de l'Occitanie jusqu'au pays, au massif central et au nord-est en se morcelant sur les Pyrénées. Le ciel reste bouché. Des averses se déclenchent sur les reliefs. Les températures maximales sont comprises cet après-midi entre 16 et 23 degrés. Cette édition était préparée et réalisée avec Yacine Bouzard. À 18h, c'est Anne Fauquemberg que vous retrouverez.